française.
Latina.
La franco-latina.
Bonsoir à tous. Merci d'être venus pour nous à la franco-latina. C'est vraiment un grand plaisir de faire cette soirée des rencontres, des débats consacrés aux élections colombiennes. Mon nom, c'est Eduardo Olivares. Je suis journaliste, responsable de la Franco-Latina et une colombienne, une journaliste colombienne, Carolina Labrador, qui est à mes côtés et avec qui nous allons partager donc l'animation de cette conversation. De cette conversation que nous avons mise sous le signe de savoir quel était l'enjeu que représentait pour la société colombienne les élections du 30 mai prochain et de savoir en même temps si l'alternance, pour ceux qui la veulent, était-elle effectivement possible ou pas. Voilà donc, c'est un peu la question à laquelle ont eu la gentillesse et l'amitié de répondre favorablement pour essayer de nous apporter des données qui nous permettent de faire justement un débat plus riche, plus complexe dans le sens où on fasse tout le possible pour échapper aux stéréotypes, aux cartes postales, aux simplifications qui parfois nous font du mal. Quand je dis nous font du mal, je me mets dans la peau de tous les latino-américains qui parfois voyons nos pays réduits à une carte postale jolie ou pas jolie, peu importe, mais réduits quand même. Donc c'est pour nous très important de pouvoir avoir ici, et je vais commencer par les dames, Olga González, elle est colombienne, elle est docteur en sociologie, elle est surtout, moi je l'ai connue, j'apprécie beaucoup le travail qu'elle fait sur les migrations. Nous sommes ravis de l'avoir ce soir avec nous. Bienvenue, Olga. Nous avons tout de suite à ses côtés le professeur Jean-Jacques Kulienski. Lui, il est diplômé en sciences politiques, docteur en histoire. Il est chargé de recherche à l'IRIS. L'IRIS, c'est le joli nom de l'Institut de recherche en relations internationales stratégiques. Il est chargé donc au sein de l'IRIS aux questions ibériques, à savoir donc l'Espagne, l'Amérique latine. Et finalement, un jeune journaliste et écrivain, Ricardo Abdallah, Gato Pardo, Rolling Stone, El Malpensante et d'autres aventures journalistiques font partie du capital déjà riche de ce jeune journaliste colombien, Ricardo Abdallah, auquel nous donnons la bienvenue. La question est bien simple. Nous avons un quatrième invité, mais il ne pouvait pas venir ce soir, donc il est venu avant, car nous l'avons interviewé, nous avons discuté avec lui à la distance. Et nous allons l'écouter, ce sera donc le quatrième à participer de la primera vuelta, en l'occurrence la primera vuelta de conversation, le premier tour de conversation. Il s'agit du journaliste Holman Morris, que nous avons appelé, que nous avons interviewé et dont nous vous verrons écouter les points de vue sur la question que je demanderai donc à nos trois amis de répondre à peu près dans cinq quarts d'heure. Quel enjeu pour ces élections du 30 mai ? Et puis, est-ce que l'alternance est quelque chose de possible en Colombie? Si ça ne vous dérange pas, je vous propose de commencer dans le même ordre dans lequel on a fait les présentations. Donc, la parole est à Olga González.
Merci, Eduardo Olivares, et merci à vous tous de votre présence à une heure si tardive. L'alternance est-elle possible en Colombie? Bon, c'est comme ça que tu veux poser les termes. Si je comprends bien, il y a à peu près 15 minutes pour essayer de savoir si l'alternance est possible en Colombie. Enfin, la plupart des gens que je vois ici peut-être connaissent un petit peu ce qu'il est en jeu, ou il faut peut-être quand même rappeler pour le public, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec ce qui se passe. Le 30 mai, donc bientôt, ce seront les élections en Colombie et d'une manière inouïe, il y a une chose qui se passe, c'est la possibilité que Antanas Mockus, enfin la possibilité, non, ça c'est certain qu'Antanas Mockus, ancien maire de Bogota, ancien recteur de l'Université nationale, arrive maintenant en position de force aux élections en Colombie. Il monte, il continue de monter dans les sondages, alors quelque chose se trouve cassé, pour ainsi dire, qui était l'assurance qu'on avait, ou disons la résignation pour beaucoup de Colombiens, de voir se perpétuer l'uribisme sous la figure de Santos. Ça, c'était, disons, le 14 mars. Moi, je veux me situer au 14 mars, le jour des élections législatives en Colombie, 14 mars, qui ont fait, en quelque sorte, un raz-de-marée du système uribiste. C'est l'uribisme qui a rasé ces élections, l'uribisme qui recouvre énormément d'alliances, de partis. Peut-être qu'il ne faut pas rentrer dans les détails maintenant de ce que cela recouvre, mais qui est arrivé vraiment en position de force et qui, pour les analystes, était déjà un phénomène inquiétant. Mais simultanément, le 14 mars, il s'est produit quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a eu une consultation réalisée par un parti qui s'appelle le Parti des Verts. Et cette consultation, ouverte à l'ensemble des Colombiens, a donné pour vainqueur Antanas Mockus. Ça a été le scoop, la surprise. Il a eu un score très important. Et surtout, après son alliance avec un des perdants du 14 mars, un candidat donc présidentiel auparavant, l'ancien maire de Medellín, Sergio Fajardo, qui était perdant le 14 mars, puisqu'il a obtenu, enfin, ses listes ont obtenu un très très mauvais score. Ils ont constitué une alliance, et là, à partir de cette constitution de cette alliance, ils apparaissent aujourd'hui comme vraiment l'opposé de ce que c'est que l'uribisme. Alors l'opposé, pourquoi ? Parce que sous l'uribisme, les 8 années qui viennent de s'écouler, on s'était quelque part habitué au fait que tout est permis en Colombie pour arriver au pouvoir. Tout est permis au niveau de la triche, des fraudes électoraux. Enfin, au niveau, le 14 mars, par exemple, ce sont des élections qui se sont déroulées dans une énorme irrégularité dans plusieurs sens du terme. La mission d'observation de l'OEA, l'Organisation d'État américain, a établi des rapports accablants sur le déroulement du vote en Colombie. Plusieurs missions ont ratifié ceci. Pour certains, vous vous rappelez, il y a des partis qui ont été constitués depuis la prison, comme le parti PIN, qui a obtenu plus de votes que le parti de la gauche, par exemple, plus d'un million de votes. Alors tout cela laissait un très mauvais goût sur ce que c'était que la démocratie, mais surtout tout cela traduisait 8 années de pratiques systématiques d'exercice du pouvoir dans des conditions qui étaient devenues, disons, banales, mais complètement illégales. Alors, les scandales de l'uribisme, je ne veux pas revenir ici, parce qu'ils sont très nombreux, la plupart les connaissent, le Das Gate, enfin la Chusa Das, les faux positifs, tout ce qu'ils ont essayé de faire au moment de la réélection, tout ceci, c'était des scandales qui se superposaient les uns aux autres. Et quelque part, bon, c'est pour ça que j'ai parlé d'un sentiment de résignation. Les Colombiens, en tout cas beaucoup de Colombiens, voyaient ces élections sans aucun intérêt, les élections présidentielles, la continuité sous Santos. Santos, donc, ministre de la Défense de Uribe, et un des membres de la famille Santos, très puissante, qui dirige le clan médiatique El Tiempo, mais plein d'autres médias aussi par ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le 14 mars, il y a donc cette élection, ce choix urbain du vote, surtout de Bogota, des grandes villes, mais surtout de Bogota, pour Mockus, et qui commence à changer la donne à partir du moment où celui-ci s'allie avec Fajardo. Et Mockus, il a développé un discours qui est exactement, et une pratique, qui est à l'opposé de ce qu'a été l'uribisme. Et c'est dans cette mesure où il apparaît vraiment comme un espoir. Alors qu'est-ce que c'est son programme ? Le programme de Mockus, c'est difficile de le résumer dans un sens, facile dans un autre, c'est la légalité démocratique. Enfin, difficile, je dis, parce que ça s'est enrichi au fur et à mesure. Facile parce que malgré tout, il repose uniquement sur une donne, la légalité démocratique. Vous savez, le président Uribe, c'était la sécurité démocratique. Mockus, il va développer l'idée, on ne peut pas tout faire à n'importe quel prix. D'abord, il faut respecter la loi. D'abord, il faut réinsérer la société dans les mécanismes légaux. C'est ça son programme, basiquement. Après, il applique ça en fonction des tranches. Il va le développer. Mais disons, c'est ça le changement qu'il propose. Une pratique avérée de son administration de Bogota qui est perçue comme étant honnête. Enfin, en tout cas, c'est la perception qui domine, les changements qui sont survenus à Bogota. Il faut savoir, Mockus, au moment de son élection comme maire de Bogota, il a pris des mesures très impopulaires au début, mais qui finalement se sont avérées avoir été exportées dans d'autres villes, comme la fameuse ley zanahoria, la loi carotte, qui consiste à ce que les établissements ne pouvaient plus vendre de l'alcool après une heure donnée, une heure du matin, deux heures du matin. Et avec ceci, les taux d'homicide sont réduits de un tiers dans la plupart des villes, enfin d'abord à Bogota et par la suite dans la plupart des villes de Colombie. Alors, MOCUS, c'est avant tout un système, enfin c'est une pédagogie, c'est un pédagogue qui, vous l'avez vu peut-être lors des débats récents à Bogota, parce que maintenant les débats électoraux comptent énormément, les débats télévisés, c'est quelqu'un qui de manière très simple va expliquer comment effectuer un changement culturel. Quelque part, moi, j'ai défini MOCUS comme étant un anthropologue à la cité. Lui, il est philosophe de formation, mathématicien, mais c'est plutôt vraiment l'anthropologue que je vois, quelqu'un obsédé par l'établissement de tabous sociaux, quelqu'un qui a dit « Si je suis élu président, la première chose que je vais faire, c'est d'aller avec un curé dans les caves de la Banque de la République pour qu'il arrose avec son eau bénite les fonds de la cave et comme ça, tout le monde comprendra que les biens publics sont sacrés, qu'on n'a pas droit d'y toucher. » Donc tout ça, c'est vraiment un langage différent, un langage nouveau, une véritable obsession pour un respect de la légalité, mais obtenu aussi par le changement culturel. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas seulement il faut appliquer la loi, la Constitution dit ceci, c'est quelqu'un qui a réfléchi à comment induire des comportements nouveaux auprès de la population. Et dans ça, il a été très fort aussi quand il était maire de Bogota pour réduire la consommation, par exemple, d'eau, au moment où il y avait des menaces de séquilles. Il a aussi fait des mesures très, très simples et les citoyens ont commencé à économiser de l'eau. Alors, MOCUS a déjà un capital. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive en politique sans avoir jamais exercé auparavant la politique. Il a ce capital, ses actions, il est crédible. Et maintenant, la question est de savoir s'il risque de vraiment passer, que ce soit au premier ou, enfin, au premier tour, ça paraît très difficile, mais en tout cas de s'approcher de la présidence de la République. Alors là, pour répondre à la question, l'alternance est-elle possible? Il me semble qu'il faut à nouveau regarder ce qui s'est passé le 14 mars. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en Colombie? On a des sondages qui donnent, grosso modo, l'opinion qui peut être établie à partir des classes moyennes des villes, des grandes villes. C'est ça l'opinion qui est recueillie par les instituts de sondage. Mais ce n'est pas toute la Colombie qui vote. Alors justement, un peu une des questions auxquelles il faut répondre, c'est mais que se passe-t-il avec les gens qui ne votent pas de manière, disons, libre, en fonction de ce qu'ils pensent? Que se passe-t-il avec ce vote coopté, clientélaire, qui est quand même très important en Colombie? Et pourquoi je parle du 14 mars? Parce que, d'après les instituts, les politologues qui s'occupent de ces sujets, environ un tiers, attention, un tiers des municipes, donc des villes de Colombie, de moyenne petite taille en général, présentent des risques électoraux. Un tiers. Ça, c'est la mission d'observation électorale. Des politologues de différentes universités ont fait des études, ont établi des cartes. Risques électoraux, cela veut dire irrégularité, achat de vote massif. Donc, cela veut dire qu'il y a déjà un tiers d'inconnus, au moins un tiers d'inconnus, que les instituts de sondage ne parviennent pas à percer. Ensuite, il y a évidemment d'autres menaces, pour ainsi dire, pour un vote, disons, citoyen pour MOCUS. C'est le fait que le gouvernement en place, il a déjà prouvé par le passé qu'il peut aller très loin dans la fraude, certes, mais aussi dans d'autres pratiques de ce qu'on appelle la campagne sale. Le parti Polo a été systématiquement attaqué avec ce genre de pratiques. Jusqu'à présent, je pense que le parti, enfin MOCUS, a été plutôt épargné. Et il y a une raison à cela, qui je pense est simple. MOCUS est tout de même partisan de la sécurité démocratique, de continuer, ça c'est le dogme qu'a laissé l'uribisme, la sécurité démocratique, elle ne sera pas remise en cause, même pas par MOCUS. Et, deuxième facteur, qui fait que MOCUS jusqu'à présent a été épargné, du point de vue économique, MOCUS ne représente pas une rupture. Sa conduite de l'économie, aussi bien quand il était maire de Bogota, enfin jusqu'à présent, disons, il parle peu d'économie, mais les personnes qui l'entourent sont des gens qui, bon, il faut pas, il ne se caractérise pas spécialement par un discours social, pas du tout. Alors, je pense que ce sont les deux raisons principales pour lesquelles Mokous a été épargné jusqu'à présent de la campagne sale, mais cela peut commencer à changer. Je sais qu'il y a en tout cas des vallas, des pancartes qui commencent à circuler, parce que Mokous, à un moment donné, il a dit, s'il le fallait, Uribe, je l'enverrai en extradition, s'il le fallait, puisqu'il respecte la loi. S'il respecte la loi, il faut bien être en accord avec ses principes, ça peut aboutir à ça. Eh bien, ce genre de déclarations lui ont coûté très cher, dans la mesure où c'est exploité par l'opposition. Et là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Mokous va résister à cela et comment ? Parce que jusqu'à présent, ce qu'on voit, c'est que quand il se prononce dans ces termes-là, il revient sur ses positions et il reste comme ça très hésitant. Mais il est certain que le gouvernement en place et le candidat Santos, qui a par ailleurs embauché un type très obscur, Jota Rendon, diffamateur qui fait même peur aux plus centistes, tellement il est sale. Et si ça se trouve, ils vont exploiter ce filon pour fragiliser Mokous.
Merci, Olga. Je laisse avec vous donc maintenant Jean-Jacques Kolinski. Nous vous écoutons, cher ami.
Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis un petit peu impressionné. J'ai l'impression d'assister à un meeting électoral colombien et de parler en français à un public qui certainement comprend beaucoup mieux l'espagnol. Mais enfin, c'est la règle du jeu. Alors, je ne suis pas colombien, mais la plupart d'entre vous connaissent certainement beaucoup mieux le sujet que moi-même, d'autant plus que je suis un généraliste de l'Amérique latine et pas un spécialiste de la Colombie. Donc j'ai plutôt tendance à aborder les problèmes de façon peut-être plus comparative et moins localisée, je dirais. Alors je vais essayer de répondre à la question qui est posée sur l'enjeu et l'alternance. Alors ça va être très difficile après l'excellent exposé que je viens d'entendre sur la présentation des réponses qui peuvent être apportées à ces deux questions. La première, non, c'est pas un jeu de mots, mais je dirais que l'enjeu, c'est peut-être l'alternance. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? La Colombie est un pays extrêmement particulier en Amérique latine, qui se distingue par beaucoup de choses ces dernières années et depuis assez longtemps. Alors, on insiste beaucoup, lorsqu'on parle de Colombie, en dehors de la Colombie, en Colombie aussi, mais en dehors de la Colombie, sur les incidences du facteur violence, sur les facteurs qui empêchent le fonctionnement d'une société démocratique, d'une société civique, telle qu'on l'entend, et ce qui pèse effectivement sur le jeu électoral. Alors, les élections en Colombie ont toujours été très particulières, on en a parlé tout à l'heure, donc il y a un vote induit, des pressions sur des électeurs, des violences. Dans la chambre précédente, il y avait un tiers des élus qui étaient issus de ce genre de pratiques. Il semblerait que le 14 mars n'ait pas changé beaucoup de choses de ce point de vue-là. Il y a un autre élément auquel, malheureusement, je n'ai pas de réponse, mais qui m'a toujours intrigué en ce qui concerne la Colombie, c'est le fort taux d'abstention. Une abstention qui est quand même très élevée, beaucoup plus élevée que celle qu'on constate dans les autres pays d'Amérique latine. Donc je dirais que l'un des enjeux de ces élections, mais on verra, on pourra en juger au soir des élections, ça sera de voir si ces élections permettent à la Colombie et aux Colombiens d'aller vers un peu plus de normalité démocratique, on constate que les facteurs de violence sont un petit peu moins importants. Donc je crois que ça sera quelque chose qu'il faudra observer de très près. Donc le deuxième élément, donc c'est ce que je disais en introduction, effectivement, l'alternance. Pourquoi ? Parce que la Colombie est l'un des rares pays d'Amérique latine et peut-être jusqu'aux dernières élections au Chili, le seul pays d'Amérique du Sud dans lequel il n'y avait pas eu de changement, disons, dans une direction beaucoup plus progressiste et beaucoup plus éloignée des politiques économiques qu'on a appelées, pour résumer, pour faire bref, mais je crois que tout le monde comprendra ce que je veux dire, du consensus de Washington. Donc l'arrivée en démocratie de la plupart des pays d'Amérique du Sud, pour nous limiter à l'Amérique du Sud, s'est faite dans ce contexte-là, c'est-à-dire, bon, liberté électorale, pluralité des candidatures, et liberté dans l'économie entendue dans le sens le plus extrême, avec réduction du rôle de l'État, privatisation des services sociaux, publics, etc. Un certain nombre de changements se sont produits ces 15 dernières années dans la plupart des pays d'Amérique latine. Il y a eu un cycle qui s'est ouvert, qui peut-être a été rompu avec les élections au Chili du mois de janvier cette année, et l'année dernière, il ne faut pas l'oublier non plus, avec une alternance de même type dans un pays voisin de la Colombie, le Panama. Donc est-ce que ces élections-là vont changer la donne en Colombie? Est-ce qu'il va y avoir une évolution? L'élément qui a joué un rôle de distorsion dans les évolutions possibles en Colombie, c'est incontestablement l'élément de la violence. C'est un argument qui a servi d'enjeu électoral décisif pour expliquer en 1998 la victoire du candidat conservateur Andrés Pastrana, qui avait fait le pari d'une négociation avec le groupe de guérilla le plus important, les FARC. Donc ce processus mal conduit, mal maîtrisé, mal pensé, n'ayant rien donné, le candidat des élections suivantes qui a gagné en 2002-2006, qui s'est présenté donc avec un programme qu'il appelait de sécurité démocratique, a repris ce thème de la violence, qui est un thème effectivement central, pour dire bon, mais la main tendue, ça n'a pas marché, on va taper du poing sur la table, et donc plus question de négocier, donc on va donner davantage de pouvoir aux forces de l'ordre, on va taper fort, avoir une politique sécuritaire. Donc cet élément-là est un élément important, il me semble, chaque fois qu'il y a des élections en Colombie, il joue un rôle. Alors, dans l'alternance, si alternance il y a, il est probable et il est possible que l'élection de Pastrana, ça avait été la main tendue, échec. Les deux victoires d'Alvaro Uribe, c'est au contraire, on tape fort sur les délinquants, etc., les violents. Cette fois-ci, il est possible que l'alternance vienne de la part des candidats ou du candidat qui sera présenté sur le même sujet, le plat d'une autre façon. Et manifestement, donc effectivement, tous les candidats ont bien compris que la violence était l'enjeu, un enjeu qui était important pour les électeurs. Donc le candidat qui assure la continuité de ce qui s'est fait, dont l'ancien ministre de la Défense, Santos, ne propose que de faire ce qui s'est fait dans les deux mandatures précédentes, donc 2002-2006, 2006-2010. Le candidat de la gauche du Polo Democratico a compris lui aussi qu'il fallait se démarquer des FARC, parce que dans une démocratie, même une démocratie en construction, donner l'impression qu'on a des faiblesses ou des sympathies ou même de la compréhension pour des groupes qui cherchent à modifier la donne politique par la violence, c'est quelque chose qui est quelque part, à un moment ou à un autre, sanctionné par les électeurs. Le problème est de savoir si l'ensemble de ces partisans partagent ce point de vue. C'est peut-être la raison pour laquelle, dans les sondages, effectivement, celui qui est sorti du chapeau, là, comme le lapin sort du chapeau des magiciens qu'on n'attendait pas, Antanas Mockus, qui s'était présenté précédemment sous une autre étiquette aux élections précédentes. Donc cette fois-ci, c'est le candidat vert soutenu par, ce qui est assez intéressant, il est soutenu par d'autres anciens, comme lui-même, maires, élus locaux, donc des gens qui sont au contact des réalités quotidiennes. Donc il propose d'appliquer un certain nombre de règles de droit, de les appliquer comme on doit les appliquer en démocratie, en donnant finalement un exemple, ce qu'il avait fait quand il était maire de Bogota, ou ce qu'avaient fait d'autres maires qui le soutiennent, Peñalosa ou Garzón, qui, eux aussi, avaient fait, sous diverses étiquettes d'ailleurs, la démonstration qu'on pouvait quelque part quand même gouverner une ville aussi importante que Bogota et aussi compliquée en appliquant des règles pour le bien de tous. Et à partir du moment où ces règles sont respectées, tout le monde en profite. Donc il me semble que si alternance il y a, elle sera de ce côté-là, parce que c'est peut-être le candidat qui, dans cette période très particulière d'aujourd'hui, cette période électorale, a su peut-être le mieux sentir ce qu'attendait une majorité, en s'appuyant sur son expérience, sur l'expérience de ceux qui le soutiennent, et donc en faisant preuve d'une certaine crédibilité dans le discours. Le candidat officiel donc de la continuité, donc la continuité quelque part a porté un certain nombre de séquelles négatives qui ont été évoquées tout à l'heure, donc les exécutions extrajudiciaires, il y a un certain nombre de casseroles, de scandales, corruption, liens avec d'autres groupes violents, ceux-là d'extrême droite, les paramilitaires, qui ne rentrent pas dans le cadre qui est souhaité par une majorité des électeurs. Quant au candidat le plus important de la gauche, celui du Polo Democratico, Gustavo Petro, peut-être souffre-t-il du fait qu'il y a eu une certaine réticence parmi les siens à condamner de façon claire et franche, comme lui-même le fait, toute compromission, toute même compréhension à l'égard des FARC ou de l'ELN, en fait des groupes qui, à gauche, pratiquent la violence et qui, effectivement, c'est un argument qui a servi d'alibi pendant plusieurs années aux partisans d'Alvaro Uribe comme de ceux du candidat qui prétend assurer sa continuité, Santos. Donc à ce stade, moi, je ne vois pas très bien ce que je pourrais ajouter de plus. Hein. Donc voilà ce que je considère comme étant à la fois l'enjeu et quelles peut-être les raisons pour lesquelles il peut y avoir une alternance, mais qui sera une alternance à la colombienne, qui sera différente des alternances qu'on a pu constater dans les autres pays d'Amérique du Sud, en raison de ce poids, de cette influence de la violence dans la vie politique.
Merci Jean-Jacques Koulianski. Nous avons maintenant un regard tout aussi colombien que celui d'Olga et celui d'un journaliste, d'un écrivain et d'un jeune dont j'ai eu la possibilité de connaître, de lire quelques écrits, et je me suis dit que c'était très important que Ricardo Abdala nous donne son point de vue sur cette aventure.
Bon, merci pour l'invitation. Alors, si je parle de trop, tu me dis et on arrête, parce que je vais aller un peu plus en arrière en disant que c'est drôle que la Colombie, c'est un pays qui se disent fiers d'avoir la démocratie la plus stable de l'Amérique latine, mais où en même temps, les électeurs n'ont pas vraiment l'opportunité de choisir tout au long de l'histoire du pays. Et encore moins la possibilité de gagner des élections, de fêter un résultat des élections. Je pense que la première fois que vraiment le peuple colombien a supporté un candidat, c'était en 1948, on a tué le candidat Jorge Eliécer Gaitán. Et après ça, les libéraux et les conservateurs se sont alternés au pouvoir par un accord fait entre les deux partis. Et les gens se sont habitués à cette culture où les gouvernants ne sont pas des serviteurs. Ils partagent le pouvoir et le peuple reste sans voix, sans droit de rien dire. Et nous sommes arrivés à nous habituer. Et ça a duré 20 ans à peu près. Après 20 ans d'alternance entre les conservateurs et les libéraux, qui ce sont les noms des partis, mais qui ne sont ni libéraux ni conservateurs, les gens ont voulu un changement. Mais comme les gens ne se souvenaient pas d'une autre chose que ce qu'il y avait avant cette époque, ils ont décidé de supporter le candidat qui avait été le seul dictateur en Colombie, Gustavo Rojas Pinilla, qui c'était la dernière chose avant le Front National, avant le pacte entre les libéraux et les conservateurs. Et ils ont décidé de le supporter dans les élections. Et le pacte, le Front National, qui c'est l'union de conservateurs et libéraux, a décidé que c'était pas tout à fait correct pour le peuple de vouloir un changement. Et ils ont volé les élections. Ils ont imposé leur candidat. Alors les gens, peut-être, se sont dit qu'à ce moment-là, ça ne vaut pas la peine d'insister dans les règles de jeu de la démocratie. Et il y a des gens qui ont pris les armes. Et il y a les restes qui se sont tout simplement résignés, qui savaient que en fait, les voix ne peuvent pas changer le système. et les deux systèmes ont coexisté pendant encore 20 ans. On a passé encore 20 ans laissant, en luttant dans la forêt pour changer le système, et les autres résignés en votant pour les candidats libéraux ou conservateurs, un peu d'après la tradition familiale, non ? Si on est né dans une famille libérale, on votait libéral. Et après, vers les fins des années 80, les gens ont encore voulu un changement. Alors, peut-être que c'est à peu près tous les 20 ans. Et il y avait Luis Carlos Galán qui avait pas mal de supporters, même si ce n'était pas un candidat de gauche, même si ce n'était pas un candidat radicalement opposé au régime, disons, à l'État. Un candidat qui était dans les règles des jeux, qui avait énormément de chances de remporter les élections de l'année 90, et on l'a tué. Et après, on a tué encore deux candidats. Alors, à ce moment-là, on s'est habitué. C'est ça. Mais non, mais je me souviens qu'à l'école, on disait, demain, il n'y a pas de cours parce qu'on a tué un candidat à la présidence. Et on trouvait ça tout à fait normal. Alors, les gens se sont dit, c'est inutile de voter. À quoi ça sert? Si un candidat qui représente un changement a des possibilités de remporter les élections, on va les tuer. Alors, à quoi bon? Et ça explique un peu l'abstention. Parce que moi, dans ma génération, on s'est toujours dit que voter, ça ne sert à rien. Soit on vote pour les candidats qui font partie du système, soit on tue les candidats. Alors, pour ne pas mettre en risque la vie des candidats qu'on aimait, on préférait ne pas voter, c'est comme ça. Mais malgré tout, malgré les quatre candidats assassinés, les voix populaires ont élu une assemblée constitutionnelle qui était, à ce moment-là, très intéressante et je crois très... très progressiste en Amérique latine. Je pense que déjà la plupart des membres de cette assemblée constitutionnelle dans l'année 91, c'était des anciens combattants de l'M19, un groupe de gauche, un groupe guerrillero, et qui ont produit une constitution très intéressante, qui même si n'est pas tout à fait appliquée, même de nos jours, même 20 ans après, est beaucoup mieux que l'ancienne constitution qui était très conservatrice, très retardataire d'une certaine façon. Mais après ça, disons que ça c'est une conséquence de la mort de ces quatre candidats. Mais encore, les gens ont été déçus parce que le changement de la constitution n'a pas été appliqué. Alors, d'une certaine façon, oui, au niveau des droits des minorités, au niveau des droits des enfants, au niveau des droits des femmes, des indigènes, oui. Mais pour la plupart des habitants, la vie n'avait pas tellement changé. Alors, pendant encore 12 ans, le gouvernement de Gaviria et puis Pastrana, et puis Samper, et puis Pastrana, les gens ont élu à peu près ce qu'il avait à choisir. C'était pas grand-chose. Et c'est que, quand Álvaro Uribe se présente aux élections, que les gens ont décidé finalement de voter pour quelqu'un. Et c'est vrai, c'est un peu dur de le dire, mais les gens voulaient Uribe. Ils voulaient Uribe parce que la violence était présente en ville, parce que la violence a finalement touché les gens. Parce que pendant 50 ans, la violence a touché que la campagne. Et à ce moment-là, la violence a touché les routes, a touché les villes. Et Pastrana n'a pas réussi à engager les guérillas dans un processus de paix sérieux. Alors les gens ont élu Uribe. Et je pense qu'il avait un engagement tragique, mais clair. Les gens ont engagé Uribe, et Uribe s'est engagé avec le peuple à finir avec les FARC, à n'importe quel prix. Et les gens étaient prêts. Accepter le peuple colombien, la majorité était prête à accepter. Disons que là, il y a une autre tradition colombienne d'avoir, ben, pas colombien parce que c'est partout dans le monde, avoir un ennemi, ça marche très bien. Et à ce moment-là, le gouvernement a réussi, ou d'abord avait réussi à convaincre au peuple que l'ennemi, c'était les FARC, comme avant, c'était les trafiquants. Alors, on a tué Pablo Escobar, rien n'a vraiment changé, mais on avait besoin de quelqu'un d'autre. Un ennemi. Et l'ennemi, c'était les FARC. Et c'était si bien rentré dans les esprits des Colombiens que les Colombiens ont accordé à Uribe un 12e mandat avec le même engagement. Monsieur le Président, vous allez finir avec les FARC, peu importe le prix. Et je pense que les gens leur auraient même accordé un 3e mandat si la Corte constitutionnelle ne s'était pas prononcée contre cette possibilité. On ne s'attendait pas vraiment que la Cour allait dire non au président. On ne s'attendait pas. Mais quand ça s'est arrivé, c'est la première dans ma vie, c'est le premier jour qu'on a fêté quelque chose en politique, dans ma génération. Et je pense dans la génération de mes parents aussi, qu'on a fêté, on avait gagné quelque chose. Avant, c'était les candidats qui vont et viennent. Bon, moi, ce jour-là, j'ai fêté. Mais quelques semaines après, il a les élections parlementaires. Et ce jour-là, on a bu, mais ce n'était pas pour fêter, c'était parce qu'on était triste, parce que rien n'avait changé. C'était les mêmes pouvoirs et pire, parce qu'il avait les partis dont tu nous as parlé, les PIN, qui c'était enfin un recyclage de parlementaires qui étaient en prison. Et à ce moment-là, vraiment, je pense que tous les Colombiens qui s'inquiètent un peu pour la politique de son pays, qui ont un peu de regard sur la politique, ont dit « il n'y a rien à faire, à quoi bon voter encore ?» Maintenant, il n'y a même pas besoin de tuer les candidats, à quoi bon? Et ça explique que la plupart des Colombiens ici ou à l'extérieur ne sont même pas inscrits, ne se sont même pas inscrits pour les élections. À quoi bon? Si on va toujours élire les mêmes. Et après, ça a commencé à changer. Mais c'est le 14 mars qu'il y a les élections parlementaires. Et 6 semaines après, on a les sondages qui montrent qu'Antanas Mockus peut gagner les élections. Comment on explique ça? D'abord, je pense que Uribe, il avait gagné une certaine immunité. On pouvait tout dire, on pouvait tout montrer sur Uribe, mais ça ne changeait pas. Mais apparemment, il n'est pas réussi à transmettre cette immunité à ses candidats, Santos et Arias. Et apparemment, les gens ont commencé à réagir. Ils ont dit, si Uribe n'a pas été capable de finir avec les FARC, peut-être Santos ne pourra plus le faire. Peut-être Arias ne pourrait plus le faire. Et en plus, Arias et Santos ont reçu les conséquences, ont supporté les conséquences de les deux scandales des agroingresos seguro et les falsos positivos. On sait qu'Uribe avait une certaine responsabilité, mais il a très bien réussi à décharger sa responsabilité. Mais quand il n'était plus là, ce sont ces candidats qui ont un peu pris la charge de ces deux scandales. D'un côté, il y a ça. D'un côté, il y a que l'équipe de Santos, enfin, l'uribisme en général, a tout le temps essayé de faire voir ces élections qui viennent comme une confrontation entre la gauche et la droite. Et en Colombie, et c'est triste, la gauche n'a jamais été bien vue. Le gouvernement a réussi à faire une amalgame entre la gauche et les guérillas. Et ils ont utilisé toutes ces armes politiques ou cette sale campagne dont on parlait tout à l'heure contre Petro. Ils l'ont réussi. Et la preuve, c'est que Petro, que pour moi, c'est un homme qui est capable, même si il a fait des choses qui peut-être ne plaisent pas à ses supporters et à moi non plus dernièrement. Peut-être il a essayé de s'éloigner un peu de la gauche afin de conquérir quelques voix de la droite. Mais la campagne, à ce moment-là, n'était plus une campagne droite contre gauche. C'était une campagne politique contre antipolitique, si vous voulez le voir comme ça. Mockus n'a pas vraiment beaucoup fait, mais ce sont les gens qui ont un peu repris la campagne pour eux-mêmes. Et la campagne de Santos a trop tardé à réagir. Et quand ils ont réagi, ils ont essayé de faire Mockus comme un candidat faible qui ne pourra pas faire face à Chavez et aux FARC. Mais comme c'était le même argument qu'il avait déjà utilisé contre Petro, les gens ne pouvaient plus y croire. C'était trop. On ne peut pas faire croire aux gens que Mockus est une communiste et une socialiste. Ça ne rentre pas. Alors, ça explique un peu la montée. Alors, pour vraiment répondre, est-ce qu'il y aura une alternance? Je pense qu'il y aura une alternance parce que Mockus n'est pas en politique traditionnelle. Mais je pense qu'il faut ne pas être trop optimiste parce que c'est dangereux. Moi, je supporte Mockus, je le dis. Mais il faut surtout éviter qu'il devienne notre nouveau messias, comme Uribe l'a fait à ce moment. Parce que c'est là qu'on risque de déraper. Alors moi j'aime que tous les gens font la campagne pour Mockus de eux-mêmes parce que je pense que la plupart n'ont rien reçu. Mais j'aime pas les fanatismes parce que le problème c'est que d'abord on va être déçu si à bout de 2-3 mois Mockus n'a pas changé le pays et il va pas changer le pays en 2-3 mois. Et là on va voir tous les supporters de Santos qui vont dire regardez ce que vous avez fait. Vous avez élu Mockus et rien n'a changé. C'est un peu ce qui se passe avec Obama mais ça prend du temps. Alors, il y aura un changement, oui, parce que c'est une autre façon de faire la politique, mais ça ne sera pas un changement immédiat. L'alternance, ça va prendre du temps. Et je pense qu'on verra les résultats plutôt vers la fin du mandat de Mokous. Et c'est à ce moment-là que les gens doivent être, si on peut dire, assez intelligents pour comprendre que le processus doit continuer et ne pas changer encore et revenir en arrière. Sinon, on n'aura jamais de raison pour fêter.
Merci Ricardo et merci donc à tous les trois pour ce premier tour. Je vous disais qu'il y a un quatrième intervenant, c'est un journaliste. Je voudrais au passage, en tant que journaliste, dire toute l'admiration et le respect que j'ai pour les journalistes en Colombie. C'est un pays où, je pense que c'était l'un d'eux, Antonio Caballero, qui me disait, en Colombie, il y a liberté de presse. On peut écrire ce qu'on veut, à différence de beaucoup de pays où il y a une censure préalable, etc. Mais ça peut coûter très cher, ça peut coûter très très cher. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration, parce qu'effectivement, beaucoup de journalistes ont réussi à dépasser la tentation de l'autocensure, qui est naturelle, puisque les menaces ne sont pas moindres. Il ne s'agit pas juste de perdre son boulot. Il s'agit souvent, vous le savez mieux que moi, de perdre la vie et de mener une vie insupportable. L'un de tous ces journalistes est le journaliste Holman Morris, que vous, les Colombiens, vous connaissez mieux que moi. Et nous avons voulu parler avec lui. Et curieusement, Ricardo nous a amené pas mal dans le sujet de la conversation avec lui, parce que justement, il avait déclaré au lendemain des élections législatives, les Colombiens ne sont pas prêts pour mettre fin à la parapolitique. Il s'était déclaré passablement pessimiste. On lui a demandé de nous expliquer ce pessimisme, et on lui a demandé aussi d'envoyer, et je pense aux commentaires que faisait Jean-Jacques Koulianski, effectivement, je crois qu'il y a surtout des Colombiens ce soir, mais c'est en pensant que ça allait être comme ça que nous avons laissé l'une des trois questions non traduites, parce que c'est plutôt un message de Holman à tous les Colombiens de Paris. Donc on écoute Holman à propos justement de ce pessimisme qui était déjà en train de changer.
Ese pessimisme, hoy día, al momento de esta entrevista, ha cambiado ostensiblemente.
Ce pessimisme maintenant, au moment de cette interview, a sensiblement évolué. Je vais vous expliquer le sens de cette évolution. Ce que par contre je maintiens, c'est le pessimisme vis-à-vis du collège de députés qui a été élu lors de ces dernières élections. Malgré toutes les critiques qui avaient été faites par des universitaires, des éditorialistes, et surtout par la mission d'observation électorale, la MOE, qui ont tous dénoncé avec des mois d'avance la corruption électorale, l'ingérence du narcotrafic, des narcoparamilitaires dans des départements aussi importants en Colombie que la vallée du Cauca ou encore la côte atlantique. Malgré toutes ces réserves, il s'est passé ce qu'avait anticipé la mission électorale. C'est-à-dire que dans tous ces départements, et malgré les alertes encore une fois, il y a eu de la corruption.
Se cumplieron los vaticinios de la misión electoral, es decir, que en esos departamentos donde se iluminaba con una alerta, en esos departamentos hubo corrupción, y hoy el Consejo Nacional Electoral le está dando la razón a la misión de observación electoral. ¿Cuál es la razón?
Et aujourd'hui, le Conseil National Électoral est en train de donner raison à ce qu'avait prédit la mission électorale. Quelle en est la raison? Il y a eu des municipalités, par exemple, dans la vallée du Cauca, dont les urnes furent totalement achetées. Des cas dans lesquels les 2000 voix d'une seule municipalité sont allées à un seul candidat. Sont apparues de graves dénonciations contre le gouverneur de la vallée du Cauca, parce que ses fonctionnaires faisaient de la politique en sa faveur. Bref, il y a eu toute une gamme d'irrégularités, premier point. Deuxième point, il faut remarquer que, à travers ces élections, s'est reflété le résultat de 8 années de diffamation et de propagande noire menée par la police secrète de la présidence. Quel avait été le contenu de cette propagande? Situer le pôle démocratique comme un allié des FARC? Marquer ses dirigeants comme des alliés de l'ELN, de la guérilla? Ou prétendre que ces mêmes personnes avaient reçu de l'argent du narcotrafic? Mais ne nous mentons pas, 8 années d'efforts systématiques de délégitimation dans des chats, sur des pages web, à travers des graffitis, des vidéos, des délégitimations à l'université, dans des bus, toutes ces délégitimations allaient forcément produire un résultat. De plus, il ne faut pas oublier les discours systématiques, matin, midi, soir, de celui qui est le directeur des services d'intelligence au Colombie, le président de la République, disant, répétant à la société colombienne que le pôle démocratique, les défenseurs des droits de l'homme, les associations de victimes étaient les alliés du terrorisme. Tout ceci a produit ses conséquences sur les élections parlementaires.
Hoy también hay que reconocerlo, tengo y veo y siento un ambiente de esperanza, porque siento que el país de la...
Mais aujourd'hui, je dois le reconnaître, j'ai et je ressens, je vois un sentiment d'espérance, parce que je sens que le pays est en train de passer d'un discours de la carotte et du bâton, du martinet, d'un discours de petit caporal, à un discours qui fait des lettres, des mathématiques, de l'éducation son argument principal pour arriver aujourd'hui en tête des élections. Et je crois que la meilleure formule pour résumer la situation est que cette vague verte promue par Mocus est en train de rompre la peur imposée par 8 années de gouvernement Uribe.
Esta ola verde que promueve Mocus está rompiendo el miedo de 8 años de gobierno de la administración Uribe.
Holman, hemos visto esa progresión bastante sorprendente en las últimas semanas.
Holman, nous avons assisté durant ces dernières semaines à la progression du candidat Antanas Mockus dans les sondages, alors qu'à aucun moment la gauche n'a semblé représenter une alternative face à l'uribisme. Que se passe-t-il avec cette gauche qui semble-t-il n'a ni l'appui ni la force pour devenir une alternative?
No estar teniendo la preferencia y la fuerza como para ser la alternativa.
Mira, yo tengo que decir que para mí el candidato hoy que reúne las cualidades, que el más inteligente, el que ha demostrado un conocimiento de los temas trascendentales del país, para mí sin lugar a dudas es Gustavo Petro. Pero reitero, Eduardo y Laura, que nosotros no podemos olvidar lo siguiente, que es un discurso sistemático en 8 años.
Pour moi, le candidat qui aujourd'hui réunit les qualités, l'intelligence, la connaissance des dossiers qui concernent le pays est, selon moi, Gustavo Petro. Mais je le répète, nous ne pouvons pas oublier ceci. Ce discours perpétuel qui a été mis en place durant 8 années, ce discours de délégitimation de l'opposition politique en Colombie, un discours systématique de délégitimation de la gauche démocratique en Colombie, un discours qui a abattu la crédibilité, l'honorabilité et même la vie familiale de nombreux candidats de la gauche colombienne. Le candidat présidentiel Gustavo Petro lui-même a été victime à plusieurs occasions de discours incendiaires et agressifs qui ont mis sa vie en danger, qui ont menacé son existence, notamment à cause de paroles d'Alvaro Uribe le désignant comme un allié des terroristes. À un certain moment, le pôle démocratique fut même désigné comme l'allié du chavisme le plus radical. Bref, au bout de 8 ans, et aujourd'hui en plein milieu de cette campagne électorale, sont en train d'apparaître des documents qui sont en réalité des manuels des services secrets, des guides pour menacer les opposants, les journalistes. Et nous y avons trouvé tout un bréviaire de méthodes destinées à menacer, à délégitimer l'opposition politique en Colombie. On peut y trouver par exemple, on peut y lire clairement que les services secrets affirme qu'il faut relier Gustavo Petro à la guérilla pour le délégitimer, qu'il faut rentrer dans sa vie privée. Et ils l'ont fait d'ailleurs. Ils l'ont fait aussi avec d'autres candidats. Alors aujourd'hui, je crois que le résultat est qu'en Colombie, être de gauche, le fait pour un jeune par exemple de dire qu'il est de gauche, en fait automatiquement un délinquant. C'est un coup porté à l'âme même de la démocratie que les historiens, le plus tôt possible, je l'espère, devront fouiller, éclaircir, nommer, quand sera venu le moment d'analyser le bilan de l'administration Uribe et son héritage pour la Colombie.
Investigar, revisar y nombrar cuando amerite hacer los análisis del paso de la administración Uribe y del legado del uribismo para Colombia.
C'est peut-être une question un peu osée, mais je vais quand même vous la poser. Pourra-t-on amener le président Uribe devant la justice pour crimes de lèse humanité?
Bueno, la pregunta para nada es atrevida, Laura, pero sí tiene unos pasos.
Cette question n'est pas trop posée, mais il y a des étapes qu'il faut suivre. Les normes de la justice pénale internationale indiquent que ce n'est qu'au moment où tous les recours juridiques internes d'un pays sont épuisés, et notamment pour des cas de crimes graves contre l'humanité, Ce n'est qu'à ce moment que peut entrer en action un tribunal international. Deuxièmement, nous ne pouvons pas omettre le fait que la Colombie est en ce moment même sous observation de la Cour pénale internationale, que c'est l'un des pays au monde où la Cour pénale internationale est en train d'évaluer, de noter jour après jour, le déroulement de la justice face aux crimes graves contre l'humanité. Troisièmement, évidemment, ce qu'ont exécuté, commis les services secrets pour les victimes, pour des avocats qui ne sont pas les victimes, pour des défenseurs des droits de l'homme à travers le monde, tout ceci constitue de graves crimes de lèse-humanité qui englobent toute une série de délits. D'abord la persécution systématique, ensuite des actes de terrorisme, et des persécutions systématiques et des actes de terrorisme envers des groupes de la société colombienne qui ont été qualifiés de vulnérables. De quel groupe vulnérable parle-t-on, selon les Nations Unies? On parle de mouvements de défense des droits de l'homme, on parle de journalistes, de leaders d'opposition, de syndicalistes. C'est pourquoi nous, qui avons été les victimes de cette chasse aux sorcières, nous disons que ce qui a été commis par les services secrets est un crime de lèse-humanité. C'est également la raison pour laquelle nous, c'est-à-dire une centaine de victimes de la persécution, nous nous sommes réunis, nous nous sommes unis, et qu'il est fort possible que durant ces prochaines semaines, nous accusions le président Álvaro Uribe devant le tribunal pour ses responsabilités dans ces délits. Si la justice colombienne n'opère pas dans le respect du droit, si cette demande s'embourbe, si tout ceci n'obtient aucune réponse, nous espérons, et cela devra se passer ainsi, nous espérons que la justice internationale se mettra alors en marche. Parce que, je le répète, nous nous trouvons face à de graves crimes de lèse-humanité.
Que la justice internationale opere, porque reitero, estamos ante graves delitos de lesa humanidad.
Holman, antes de terminar, ¿qué quisiera transmitirle a usted, tanto a sus compatriotas colombianos como a los que en Francia siguen de cerca la situación y las esperanzas, sobre todo de los colombianos?
El primer mensaje, como colombiano que ha recorrido el mundo, que ha visto la situación de decenas de compatriotas en diferentes partes del mundo, primero es decirles a muchos colombianos que hoy están en el exilio, no los hemos olvidado. Algún día nosotros los periodistas, los historiadores, tendremos que escribir lo que ha sido esa salida durante las últimas 3 o 4 décadas de lo mejor de este país. Los que no terminaron bajo las balas de la intolerancia en Colombia, hoy están en el exilio, a costa de grandes sacrificios. Entonces, para esa gente que seguramente ya echó raíces y tiene familias en el exterior, un abrazo muy grande. Que aquí hay colombianos que hemos seguido su ejemplo y todavía lo recordamos. Y seguimos luchando por una Colombia en la que un día puedan regresar. Y esa Colombia es una Colombia que acepte, que sea tolerante, que sea incluyente y que acepte el debate de las ideas. El segundo mensaje es, hay esperanza, hay esperanza. En este país hay líderes sociales, campesinos, políticos que se están jugando el todo, por construir una Colombia más justa, una Colombia más incluyente. Y en tercer lugar, eso que pensábamos que el uribismo era todopoderoso, que el uribismo había construido unas murallas tan grandes que eran invencibles, nos estamos dando cuenta que en política la gente empieza a tener memoria y que eso va a llevar, en mi opinión, a que el uribismo tenga una estruendosa derrota en las próximas elecciones y que gane el imperio de la ley, que gane el imperio de la democracia, reitero, el respeto a la diferencia y que por fin sean escuchadas la voz de las víctimas. Para ellos un abrazo para todos mis compatriotas.
Siento que tengo la capacidad de transformar fuertemente la sociedad colombiana, donde cada vida se vuelva sagrada, donde cada peso público se gaste bien, donde la ilegalidad sea reducida al máximo. Creo ser capaz de poner lo mejor de mí, pero sobre todo de convocar a la gente a que ponga lo mejor de sí.
¡Vamos, Colombia!
Llegó el día, llegó, llegó. Llegó el día, llegó, llegó. Abran las ventanas pa' que entren tan hacia el sol. Llegó el día, llegó, llegó. Llegó el día, llegó, llegó. Abran las ventanas pa' que entren tan hacia el sol.
La Franco Latina.